les trois matrices, de quoi s'agit-il? On pense plutôt à une notion de maternité, mais je vais vous parler d'une maternité qui nous concerne tous, hommes et femmes. Et pour cela, je vous invite à accepter de changer de regard sur nos textes sacrés. Parce qu'il est de la plus grande urgence que nous acceptions de sortir de nos catégories mentales habituelles, de nos façons de penser, de nos façons de lire, justement, et que nous entrions dans une autre dimension du message biblique. C'est aussi le message des Upanishads, c'est aussi le message du Tao, c'est aussi celui du Coran. Si nous savons entrer dans l'intérieur, dans la profondeur des choses, de tous ces textes, il est dit qu'ils peuvent être lus sur 70 niveaux de lecture, et nos traductions sont au tout premier niveau. Alors c'est vous dire que nous nous privons d'un message essentiel qui est là dans les profondeurs, et c'est un de ceux-là que je voudrais vous faire participer ce soir.
Annick de Souzenel parle, à qui veut bien l'entendre, de ce retournement intérieur propre à toutes les traditions, de cette responsabilité qui incombe à l'être humain de mettre au monde le Fils divin, le « je suis », par des mutations successives de matrice en matrice, par la conscientisation progressive de nos énergies inaccomplies et notre verticalisation. Au lendemain de sa conférence sur les trois matrices, l'eau, le feu et le crâne, elle nous accorde gentiment un entretien. Ma première question est de savoir ce qu'il se passe pour ceux qui justement ne prennent pas ce chemin de l'intériorité.
Mais ils ne le prennent pas aujourd'hui, ils le prendront demain. L'humanité est une, et chaque cellule s'accomplissant accomplit le grand corps. Et un jour, toute la pâte sera prise, je dirais. Ça se continue après la mort, et il est bien certain que chacun fait le chemin. Et en tout cas, c'est toute la tradition chrétienne qui le dit, et même judéo-chrétienne.
Il existe traditionnellement deux voies pour parvenir à l'unité du grand « je ». Celle qui insiste sur un ego fort, en particulier en Occident, et celle qui prône son effacement immédiat, plus propre à l'Orient. Je lui demande sur quelle voie elle se place.
Ma voie se place ni dans l'un ni dans l'autre, à vrai dire. Il y a des êtres qui, très jeunes, ont des expériences mystiques fondamentales, et l'ego ne va pas beaucoup se développer. Donc, pour cela, je ne peux pas apporter une loi comme il faut construire l'ego, etc. Non, je crois qu'il faut asseoir la personne d'une façon solide, de façon à ce qu'elle puisse être en adéquation avec notre monde, malheureusement, qui est très dur, mais il ne faut tout de même pas en faire des êtres à part. Je serais parent d'un être comme ça qui aurait une vocation mystique très très jeune, j'essaierais tout de même de construire en effet cette première personnalité, mais sans détruire l'autre. Or, la plupart du temps, en Occident, comme on ignore cette autre dimension, on veut absolument rendre tous les êtres en adéquation absolue avec ce monde-ci. Et on écrase bien souvent cette interrogation profonde de l'être qui demande à aller plus loin. Moi, je crois qu'il y a même aujourd'hui beaucoup de schizophrénie ou quasi-schizophrénie qui s'installe parce que cette exigence intérieure ne trouve pas de réponse à l'extérieur. Ils se trouvent devant un absurde dans le monde et ils ont une exigence de sens tellement forte que, se heurtant à cet absurde, ils s'enferment. Alors évidemment, quand ce moi, au contraire, est bien installé, eh bien, il risque de ne pas être à l'écoute de cette autre exigence. Et puis pour d'autres, tout à coup, il y a l'expérience que j'appelais hier avec Jung, l'expérience lumineuse, qui fait qu'il y a un basculement total à un moment de leur vie, parce que tout à coup, il y a la révélation d'une autre identité à l'intérieur de n'importe quel âge.
Dans son dernier livre, « Le baiser de Dieu », Annick de Souzenel nous explique que le Christ reçoit le baiser du Satan comme ultime acte d'amour. Explication de texte.
Alors ce n'est pas sur la croix, mais c'est dans son expérience des enfers, pendant les 3 jours qui suivent sa mort physique, il descend aux enfers, et ça c'est un espace-temps que nous ne connaissons pas, où là il rencontre le Satan, en effet. Là, il écrase le Satan diabolique en tant qu'il a pris la tête de l'humanité, ce qui va nous permettre de faire le chemin à tous. Et il s'unit aux séraphins parce que je crois pouvoir dire que le Christ, pour les chrétiens en tout cas, le Christ, fils de Dieu, donc Dieu, un, oui, un, mais quand il entre dans le tissu créé, qui est un tissu de dualité, voire de multiplicité, il se donne un adversaire dans la personne de ce séraphin glorieux, absolument merveilleux, avec qui il va travailler pour amener l'homme à son accomplissement. Et alors là, il y a au contraire union du Christ avec le séraphin, et c'est la résurrection. Il intègre le séraphin. De même que lorsque nous montons chaque étage de l'échelle de Jacob, nous intégrons les énergies qui correspondent aux hiérarchies angéliques de cet étage. Alors les anges de cet étage viennent nous servir. Et puis après une autre hiérarchie. Et la toute dernière appréhension que nous aurons tous d'ailleurs à ce moment-là, parce que nous vivrons la matrice du crâne aussi, c'est la rencontre avec les chérubins et les séraphins. Et là, dans l'union avec eux, ça sera aussi pour nous la résurrection. Il a un aspect diabolique, essentiellement quand nous lui donnons le pouvoir. Quand nous lui donnons pas le pouvoir, il a une dimension ontologique avec une fonction nécessaire pour notre accomplissement, et en vue de notre accomplissement total et de la résurrection, bien sûr.
Concernant encore le Satan, et dans son livre « Réponse à Job », le psychanalyste Jung prend l'hypothèse que le Satan est la face encore inconsciente de Dieu. Réponse d'Annick de Souzenel.
Je ne le dis pas du tout de la même façon. C'est l'homme qui est l'inaccompli de Dieu. Et c'est très très net avec les termes hébreux, puisque nous sommes image de Dieu, tselem, tsel c'est l'ombre, nous sommes vraiment cette ombre de Dieu. Et ce féminin des profondeurs en nous, tsela, c'est notre ombre à nous. Ce qui fait dire d'ailleurs à l'apôtre Paul une phrase extrêmement intéressante, mais qui est très mal traduite, l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Alors, moi ça ne me va pas du tout. En fait, il parle hébreu, et il dit l'Adam est la gloire de Dieu, et Isha, c'est-à-dire ce féminin des profondeurs et la gloire de l'homme. Il y a là une image aussi, n'est-ce pas? Ce qui me fait dire que notre Isha est notre ombre, c'est-à-dire toute cette partie inaccomplie de notre être est notre ombre, et nous sommes l'ombre de Dieu, et Dieu se fait inaccompli en nous. Et c'est en ce sens-là qu'il y a ce qu'on appelle le tzimtzum chez les Juifs, à savoir ce Dieu qui se fait rien pour que nous soyons et que nous l'accomplissions, si je puis dire. Les chrétiens parlent de la kénose, c'est-à-dire un évidement divin, pour que nous puissions être son inaccompli et que nous puissions l'accomplir. C'est nous donc qui sommes cet autre côté de Dieu. Si on reprend le saint nom divin, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il s'incarne, Yod-Vav-Vé est l'épée, le Yod et le pommeau, le Vav, la lame, les deux V et les deux tranchants. C'est l'épée à deux tranchants que nous voyons dès le troisième chapitre de la Genèse, qui tue ou qui vivifie. Et dans ce pôle destruction, là, le Satan joue un rôle extrêmement important, mais en collaboration, je dirais, avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il va détruire Job, nous le voyons détruire, ce qui doit être détruit pour l'accomplissement de l'homme. Alors là, oui, il est très intimement lié à ce pôle, je dirais, négatif de l'épée. Mais il n'est pas l'ombre de Dieu, il n'est pas le côté sombre de Dieu, je ne crois pas. Il est ce côté sombre de l'action divine pour nous, c'est-à-dire l'action des énergies divines qui se déploient pour nous détruire afin de nous reconstruire, détruire nos fausses routes afin de nous remettre dans l'axe juste. C'est exactement ce qui se passe pour Job. Et c'est vraiment le livre de la Bible qui exprime le plus clairement cette déviance, si vous voulez, de l'homme, le piège dans lequel nous sombrons tous, vous voyez, et qui fait qu'il y a un jour où il y a vraiment l'épreuve qui doit nous remettre en question totalement pour reprendre un chemin de lumière. Ce n'est pas un mal pour un mal. Le mal n'existe pas, vous comprenez? Il n'a pas d'ontologie, le mal. Il est véritablement cette mort pour résurrection. C'est pour ça que j'emploie le mot mutation, parce que Dieu ne crée pas la mort, il crée les mutations.
Ma question suivante concerne le chemin auquel nous invite Annick depuis plus de 30 ans. Ne s'agit-il pas d'un grand oui inconditionnel à ce qui est, avant tout en soi?
Vous savez, je crois que tout est dit dans le sacrement du baptême pour les chrétiens, qui est vécu sous une forme matérielle, symbolique, lorsque nous sommes enfants la plupart du temps. Nous avons à le refaire nôtre dans notre vie d'adulte pour, en effet, faire ce oui. Et dans le baptême, il y a toute une partie qui est un véritable exorcisme. Renonces-tu à Satan, j'y renonce. Trois fois, n'est-ce pas? Te joins-tu au Christ, je m'y joins. Trois fois. C'est un véritable exorcisme. Là est le oui, et ce qui est dit par nos parrains marraines lorsque nous sommes enfants, nous avons un jour à le redire en tant qu'adulte d'une façon très consciente et aller vers ce oui total. C'est un engagement vraiment dans la voie divine. Cette voie divine implique notre liberté totale, c'est redoutable la liberté de l'homme, n'est-ce pas? Et implique aussi que nous soyons dans une prière continuelle pour avoir le discernement, et c'est essentiellement l'Esprit Saint que nous prions là, de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas dans ce oui. Parce que c'est bien de dire oui à Dieu, Mais où est le chemin? Est-ce qu'il est d'accepter ceci ou d'y renoncer, d'accepter cela ou d'y renoncer? Ça implique un discernement implacable. Et ça ne peut être vraiment discerné que dans la prière. Parce que c'est quelque chose de chaque instant. C'est là qu'est le oui de principe, mais quel est le choix, quel est le discernement dans les différents engagements de nos vies, vous comprenez? Alors, il peut y avoir des réponses intérieures par des intuitions, ou par le rêve, ou par différentes choses venant de l'intérieur. Quand on est attentif, il y a aussi des événements venus de l'extérieur qu'il faut savoir discerner. Ce grand travail divino-humain est que nous obéissons à cette loi liée à la matrice de feu. Nous sommes véritablement là dans un engagement absolument irréversible. Mais nous avons aussi droit à l'erreur. Nous pouvons nous tromper. Mais lorsque nous nous trompons, nous nous voyons nous tromper. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est difficile à dire, mais c'est mon expérience en tout cas. Moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai vu le Saint-Nom vraiment écrit comme une épée. Je n'ai aucune prétention d'avoir des illuminations, mais j'ai vu ce dessin. Mais je ne me serais pas permis d'en parler et de l'écrire jusqu'au jour où je feuillette le livre du Zohar. Je l'ouvre, il y a 6 tomes, hein, et je tombe sur la page. Le tétragramme est une épée, le yod et le pomo, le vav, la lame et les 2 tranchants. J'étais bouleversée. La confirmation de ce que j'avais vu me venait de l'extérieur. Et c'est à partir de là que j'ai pu l'écrire, que j'ai pu voir que l'arbre de Séphiroth n'était pas autre chose que le développement de l'épée et que le corps humain était à cette image. Et je suis absolument navrée que les chrétiens ne comprennent pas ça et parlent encore du glaive quand le Christ dit « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée », c'est « Je vous enlève vos petites paix à vous pour vous amener à construire l'épée intérieure ». Et les chrétiens passent complètement à côté de cette notion de l'épée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi les juifs, parce que dans la Bible, il y a des passages où l'épée est très très nettement dite, c'est le mot « rerev » en hébreu, et ce mot n'est absolument pas traduit, parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, alors on le passe. C'est incroyable. C'est une réalité fondamentale, mais vraiment fondamentale dans la mystique judéo-chrétienne, et qui n'est pas encore perçue.
À ce moment de l'entretien, je lui demande si elle croit en une fin apocalyptique du monde, avec un châtiment divin.
Il n'y a pas de châtiment divin. Dieu est amour. C'est un amour total. C'est nous qui amenons des événements qui se retournent contre nous. Nous sommes totalement responsables. Moi, je suis très triste quand je vois encore que le 3e chapitre de la Genèse, où nous voyons Dieu qui parle aux 3 auteurs du drame, pour leur dire, mon pauvre petit, voilà ce que tu as fait, voilà les conséquences de ce qui y arrive, et on l'appelle encore les 3 châtiments divins ou les 3 malédictions. C'est aberrant, il n'y a pas de malédiction divine. Il y a un amour divin qui nous appelle et qui nous appelle constamment. Justement, dans l'Apocalypse que vous citiez tout à l'heure, je frappe à ta porte.
Je précise ce que j'entends par châtiment, soit une brisure pour ceux qui ne seraient pas dans l'ouverture du cœur face à cet amour irradiant de Dieu.
Oui, mais on ne peut pas l'appeler châtiment. Ce n'est pas pour punir. Il n'y a aucune notion de punition, vous voyez. C'est conséquence de ce que vit la personne. Voyez-vous ? Donc, nous sommes véritablement responsables. Vous comprenez ? On va retrouver ça dans toutes les traditions. Chez les hindous, quand vous voyez dans la Trimurti hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva, Shiva est celui qui détruit d'un seul de ses regards tout ce qui ne ressortit pas à l'éternité, c'est-à-dire à cette dynamique d'accomplissement. Cette épée à 2 tranchants, et ce tranchant qui détruit pour reconstruire, et dans la vraie voie. Dans la tradition soufie, Ali, le gendre du prophète, est représenté avec une épée dont la pointe détruit toutes nos certitudes. Ce sont des idolâtries. Tu ne feras pas d'image taillée, ça n'est pas autre chose que ça dans la Bible. C'est toutes nos représentations mentales, en particulier du divin, et ce qui fait certitude et que nous idolâtrons. Et nos pensées, nos idéologies, etc. Tout ça est détruit. Et on retrouve ça en physique quantique aujourd'hui, avec la théorie d'Heisenberg, le théorème d'incertitude. La vérité est une science qui a de l'avenir, comme dit Gaston Bachelard. C'est magnifique ça. Vous comprenez ? On est tous tendus vers la vérité. Et c'est le drame, justement, de tout posisme, christianisme, judaïsme, tous ont la vérité. Alors ça bloque tout, vous voyez. Et tout ça va être balayé, mais balayé. Parce qu'il va falloir entrer dans cette conscience d'une unité profonde qui nous recouvre tous.
Je propose une analogie entre les mutations au sein des 3 matrices et une personne se croyant propriétaire d'un habitat. Dans un premier temps, en effet, il s'aperçoit qu'un autre locataire, soit l'altérité, l'être en soi, habite dans ce domicile. puis vient un temps de cohabitation nécessaire, et enfin celui où il est bon de céder la place à cet autre qui est le véritable propriétaire, soit le Christ en soi. Au sens de saint Jean, il faut qu'il croisse et que je diminue.
Oui, votre image, elle est très belle, et c'est vrai qu'on peut en effet voir cette progression dans la maison, où vous entrez dans l'entrée de la maison, et puis dans le corps de la maison, vous rencontrez l'autre. Vous rencontrez l'autre qui est avant tout vous-même dans votre intériorité, mais qui est aussi tous les autres à l'extérieur. À tel point que c'est le même mot en hébreu qui dit l'un et l'autre. Ra, c'est ce côté inaccompli, que l'on traduit par le mot mal, ce qui est une catastrophe. C'est le côté inaccompli de notre être, donc voilà, c'est l'entrée dans cet autre, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous. Et si je prononce le mot réa, c'est le prochain, c'est-à-dire c'est l'autre à l'extérieur. Ce qui veut dire que l'autre à l'extérieur est aussi en moi, l'humanité tout entière est en chacun de nous. Et c'est cette découverte-là que l'on fait dans la matrice de feu, et on va vers tous ces autres à l'intérieur, qui va faire qu'on va créer l'unité de plus en plus grande avec l'autre à l'extérieur. Et puis, dans la troisième étape, en effet, c'est l'union à Dieu. C'est exactement cela qui est dans le temple chrétien. Et une véritable église chrétienne, comme l'était déjà la synagogue. Dans la première partie, vous avez la matrice d'eau, avec le bénitier, les fonts baptismaux. C'est la partie pénitentielle. Vous êtes encore dans l'espace-temps du monde extérieur, mais vous êtes dans une prise de conscience. Et puis après, vous entrez dans les portes royales, et vous entrez dans la nef elle-même, c'est la matrice de feu. Sur le plan liturgique, c'est là où se vit le mystère dans cette matrice. Et on entre dans cette matrice de feu avec tous les mondes angéliques, les chérubins, les séraphins, et on entre là dans un autre espace-temps. Il y a un chant très très beau, « Laissez vos soucis à la porte », parce qu'on entre dans un tout autre espace-temps. Et puis, il y a la troisième étape, c'est la Sainte Eucharistie, où là, il n'y a plus de temps. C'est le baiser du ciel et de la terre. C'est le grain de blé, bar, en hébreu, qui devient le fils, bar, c'est le même mot. Le symbole rejoint l'archétype, si vous voulez, il n'y a plus de distance entre les deux. C'est pour ça que les symboles sont très importants dans les liturgies et dans le temple chrétien, parce qu'ils doivent être exacts. Sans ça, il n'y a pas l'union dans le baiser, il n'y a pas le baiser. Et il faut que chaque élément symbolique rejoigne l'archétype. Et cette troisième étape, c'est la dernière partie de la liturgie, qui c'est l'autel, le cœur et l'autel avec les portes saintes. Et là, c'est vraiment cette fraction du pain et du vin, voyez-vous, qui est distribuée aux fidèles. Et ça, c'est l'union mystique unique, vraiment. C'est quelque chose d'immense. On n'a aucune idée, on balbutie, on est des enfants inconscients. La plupart du temps, quand on va, moi la première, je dis que nous sommes très inconscients de la grandeur de ce qui se passe là. Il n'y a plus de temps et l'espace est infini. Dans la matrice de feu, c'est-à-dire dans la nef pendant le corps de la liturgie, il y a tout cet accès aux différents degrés de l'échelle qui nous conduit au Saint-Nom, Dieu des Vavés qui attend Jacob en haut de l'échelle, c'est-à-dire le Christ.
Dans les dialogues avec l'ange, qu'elle a d'ailleurs eu entre les mains avant qu'il ne soit publié, il est question d'un temps où le Christ naît en même temps dans le cœur de tous les élus et où il est dit « Vous êtes tous des Jésus ». Ce qui n'est pas loin, lui fais-je remarquer, de « Je suis ».
Mais attention, parce que Jésus, c'est la personne historique. Or, le Christ, dans l'ascension, disparaît, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit-Saint ne pourra pas venir, et lui, il viendra et vous enseignera toutes choses. Nous n'avons pas à idolâtrer le Christ historique. Il s'éloigne pour que nous le trouvions en nous. Sans ça, on est toujours projeté à l'extérieur. Et c'est ça notre drame. Et moi, je reproche un peu à l'Église, occidentale surtout, mettre l'accent sur la vie du Christ extérieur, le mystère de la vie du Christ extérieur, mais nous ne sommes pas renvoyés au Christ intérieur. Vous comprenez? Là, ce n'est plus Jésus. Vous pouvez l'appeler Jésus si vous voulez, mais en fait, ce n'est plus lui, c'est vraiment le Christ intérieur. C'est le Saint-Nom à l'intérieur de lui.
J'en profite pour demander son opinion sur la représentation coranique de Jésus.
Je respecte tout à fait leur point de vue, mais je pense qu'il y aura un temps où tout ça disparaîtra, où toutes ces visions différentes disparaîtront. Pour l'instant, c'est comme ça, et je respecte tout à fait. Ils ont en revanche une mystique d'une telle beauté en allant dans deux chemins vers Dieu que je ne peux que m'unir à eux dans cette mystique-là, vous voyez. Mais ça, c'est ce qui en fait la différence tout de même pour l'instant.
Le corps possède 33 vertèbres, dont 9 soudées et 24 vraies. Parmi ces 24, on peut discerner 5 lombaires, 12 dorsales et 7 cervicales. Dans l'hypothèse d'une verticalisation de la colonne vertébrale, je me demande si les sept cervicales ne sont pas liées à la dernière matrice, soit la porte des dieux, au même titre que les 12 dorsales sont liées à la porte des hommes, la matrice de feu, et les 5 lombaires à la matrice d'eau.
Elles sont intermédiaires en ce sens qu'elles symbolisent la montée des mondes angéliques. Vous voyez quelquefois des icônes avec la mère de Dieu avec d'un coup énorme, parce que c'est elle le prototype vraiment de l'être humain qui a dépassé toutes les hiérarchies angéliques. Toi, plus vénérable que les chérubins, incomparablement plus glorieuse que les séraphins, l'a vraiment dépassée. Elle est l'archétype véritablement de l'homme accompli. Quelquefois, alors il a des coups énormes, vous voyez, ou que chez quelques grands saints aussi. Parce que c'est toute cette montée de hiérarchie angélique. C'est cette rencontre avec le séraphin que nous voyons les dernières vertèbres qui nous introduisent dans la matrice du crâne.
Qu'en est-il de l'avènement possible du Christ ?
Je ne peux pas beaucoup répondre à ça, je ne suis pas prophète, mais en me basant sur des mythes, nous ne pouvons être que très optimistes parce qu'il y a dans toutes les traditions un retournement et un accomplissement de l'humanité. Et puis, en tant que chrétienne, je suis très très sensible à ce que dit le Christ, j'ai vaincu le monde, ça veut dire toutes ces valeurs du monde, elles disparaîtront. Pour mettre en place les valeurs divines, naturellement. Vous voyez, c'est en ce sens-là que j'ai tout à fait confiance. Mais en effet, les chrétiens parlent de retour en gloire du Christ, d'autres vont le dire autrement. Les juifs attendent tout simplement le Messie, parce que ne l'ayant pas reconnu dans la personne du Christ, ils l'attendent encore, mais c'est pour nous le retour du Christ. Mais moi, je dis que le retour du Christ nous attend. Ce n'est pas nous qui avons à l'attendre, c'est lui qui nous attend. Parce que ça ne va pas venir d'une façon magique. C'est nous qui avons à mettre au monde l'enfant divin à l'intérieur de nous, et lorsqu'on aura la masse nécessaire.
Quant à cette masse nécessaire, je lui demande s'il ne s'agissait pas à nouveau des élus.
Oui, très probablement, ça doit être ça. C'est vraiment ce qui va faire le ferment du monde et qui fera monter toute la pâte. Et je pense que le jour où il y aura cette force-là vécue par nous, et c'est là où nous sommes très très responsables justement, alors il y aura certainement l'événement qui arrêtera la folie du monde.
Pour terminer, je l'interroge sur ses projets futurs.
Il y a un livre qui va sortir sur Jonas, où j'insiste beaucoup sur tout le problème de l'ombre chez l'homme. C'est ça qui est vraiment mis, j'allais presque dire, en lumière dans le livre de Jonas. Alors il va sortir en septembre ou octobre, je suppose. Et puis je suis en train de préparer un petit travail aussi sur les mondes angéliques, parce que c'est un monde qui, je crois, est très ignoré, dont on parle peu dans notre tradition, et il me semble que c'est un travail à faire. Alors je suis en train d'essayer tout au moins de commencer de le faire.
Enfin, à quand une traduction de la Bible ?
Mais mon cher ami, vous êtes ignorant comme tout. Les 5 premiers chapitres. Et les 5 premiers chapitres donnent la clé pour, à mon avis, le reste quand même. Vous voyez. Bon, je n'ai pas à retraduire la Bible mieux que ça n'a été fait, si ce n'est que j'éviterai les passages sous silence de choses qui ne sont pas comprises. Bon, je n'ai pas la prétention de tout comprendre non plus. Mais il y a tout de même des choses qui sont passées sous silence et qui sont inadmissibles, et des fautes de grammaire pour ramener à la compréhension qu'on en avait à cette époque-là, vous voyez. Bon, mais à part ça, c'est intraduisible, dans la mesure où la Bible se sert du langage de l'homme extérieur pour parler de l'homme intérieur. Je n'ai pas davantage de langage, moi, pour en parler. C'est seulement dans ce que nous pouvons contempler au-delà de ce langage, vous comprenez, c'est tout un travail de contemplation que nous avons à faire. Je vous donne un exemple très très concret. Quand on se trouve devant toutes ces stérilités des femmes dans la Bible, les stérilités des matriarches, les stérilités même dans les évangiles, on va retrouver la stérilité d'Élisabeth, etc., la mère de Jean-Baptiste et tout, il faut que nous comprenions que la Bible n'a rien à voir avec la stérilité biologique des femmes, elle s'en moque totalement. Il nous conduit à la stérilité par rapport au Fils intérieur. Et tout est comme ça, vous comprenez, je vous donne cet exemple-là, mais tout est comme ça. Il faut comprendre que ce qui est dit à l'extérieur signifie l'intérieur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, comme dit le Christ dans les évangiles. Il le dit plusieurs fois, n'est-ce pas ? Que celui qui a des oreilles entende. Alors il faut que nous ouvrions nos oreilles. Moi, je me souviens d'un rêve que j'ai fait quand j'étais en Israël une année, où j'étais allé vraiment pour méditer, pour travailler sur moi, pour réfléchir. Le premier rêve que j'ai fait en arrivant là-bas, on m'enlevait un coton de l'oreille. C'est fou, hein, ce rêve-là. Maintenant, Annick, écoute. Et c'était ça, c'était cette écoute intérieure, vous comprenez. Quand il est dit, je le citais hier, que le Christ est à l'intérieur de la maison et que ses apôtres sont à l'extérieur, ça veut dire que le Christ parle de l'intérieur et que les apôtres sont encore complètement dans le monde extérieur. Ils n'y comprennent rien. Alors, où est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous nous situons à l'intérieur avec le Christ ou aussi avec les malheureux apôtres à l'extérieur? Et tant qu'on reste à l'extérieur, on ne comprend rien du tout. On reste dans des catégories de bien, de mal, de, voilà. C'est bien, mais c'est tout à fait insuffisant. Il faut passer à autre chose. Il faut entrer à l'intérieur.
Je pense que la dernière matrice, ce n'est probablement pas dans notre corps physique que nous pouvons la vivre, très probablement après notre mort physique. Mais déjà, dans ce monde-ci, matrice d'eau, matrice de feu, oui, nous avons en urgence à vivre ces deux matrices, voyez-vous, et à faire croître l'enfant divin à l'intérieur de nous. Lorsque nous ne faisons pas croître, beaucoup d'histoires vont nous le dire, l'histoire d'Abraham pour commencer, l'histoire de la 10e plaie d'Égypte aussi. Lorsque nous ne faisons pas grandir cet enfant, c'est-à-dire lorsque nous ne dressons pas les autels à l'intérieur de nous pour faire le sacré, les sacrifices se font à l'extérieur. Et aujourd'hui, les autels se dressent à l'extérieur, sur les routes, dans les attentats, dans tous les combats, dans toutes les violences, dans tout ce que vous connaissez aussi bien que moi. Nous avons une prise de conscience urgente à faire que nous sommes responsables. Le divin doit se vivre à l'intérieur de nous, il demande à se vivre, voyez-vous. Ou bien nous nous rendons responsables de ce massacre, ou bien nous commençons de construire l'enfant divin à l'intérieur de nous. Et lorsque nous commençons à le construire dans notre personne, c'est dans le monde qu'il se construit. Car nous sommes un.